J'aimerais m'arrêter sur la première lecture, sur le récit de la guérison de Naaman. C'était les deux textes, celui de l'Évangile et cette première lecture. Eh bien, Livre des Rois nous montre le thème du lépreux et la guérison, bien sûr, qui accompagne. On a avec Naaman un lépreux qui est très riche. Ce n'est pas du tout les lépreux qui pullulaient à l'époque du Christ en Palestine et qui n'avaient rien d'autre pour vivre que la mendicité parce que la lèpre imposait eh bien, qu'ils restent à distance. D'ailleurs, c'est à distance qu'ils s'adressent à Jésus pour lui demander leur guérison. Et en revanche, Naaman, c'était le premier ministre du roi de Damas. Premier ministre du roi de Damas, numéro 2 du royaume voisin d'Israël, mais un royaume païen. Et il avait, depuis longtemps, il était touché par la lèpre. Donc on a un homme riche, mais alors les riches ne vivent pas comme les pauvres. Il y a des tas de gens autour d'eux, des serviteurs, mais personne ne les touche. Personne ne touche au mec qu'il utilise. Et il a beau être au milieu des autres, il y a toujours des précautions, même au milieu de la cour avec le roi de Damas donc, et les autres notables. Bref, il souffre, même s'il est au milieu des hommes et honoré, il souffre d'une grande solitude lui aussi. Il se sent réellement malade, il a réellement besoin eh bien, d'être guéri. Alors il a tout essayé, Naaman, donc c'est un monde païen. C'est le monde des divinités. Hein, et donc, dans ce monde-là, si on est la sorcellerie, la magie, ne vient pas forcément en aide à tous les coups à ceux qui consultent les guérisseurs, les sorciers, les grands prêtres, les prostituées sacrées de l'époque, etc. Et Naaman, bah, il est isolé au milieu de tout ça. La providence le rejoint parce que quelque part, eh bien, son cœur est droit. Il a beau être païen, on peut avoir un cœur qui est droit. Et une de ses servantes, une de ses esclaves, eh bien, est hébreu, justement. Et elle lui dit, ben, moi, je connais un grand prophète en Israël, dans mon pays, là. Et c'est pas très loin, c'est voisin. Et il s'appelle Élisée. Et ce prophète-là, tu sais, il est vraiment très puissant. Parce que notre Dieu est très puissant. Sous-entendu, bien sûr. Alors il se décide, Naaman, à aller voir Élisée. Alors il y a tout un cortège parce que c'est pas n'importe qui, donc il suffit pas qu'il prenne son manteau et son bâton et qu'il s'en aille. Oh non, non, il y a tout un cortège qui l'accompagne, une armée de serviteurs. Il prend avec lui une somme colossale d'argent et d'or pour payer les services d'Élisée s'il est guéri. Alors toute cette procession s'avance jusqu'à l'humble demeure, ermitage d'Élisée. Et Élisée a un serviteur, lui aussi, qui est un candidat à l'école des prophètes, en quelque sorte, vous voyez. Et donc, il sert son maître, il écoute bien, il regarde comment son maître agit. Et voilà que frappe à la porte Élisée, avec toute sa cour. Qui se présente devant le pauvre ermite qu'est Élisée à ce moment-là. Et Élisée ne veut même pas lui répondre en personne, il lui envoie son serviteur, avant même qu'il arrive sur le seuil de la maison, il est encore un peu loin, et il lui envoie son serviteur pour lui dire, écoute, trempe-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri, j'ai pas besoin de te voir. Et là, Naaman se met en colère. Au lieu d'obéir tout de suite, ce qu'il va finir par faire, et ben non, il raconte lui-même, il commente, mais j'imaginais que Élisée sortirait, alors là c'est moi qui en rajoute un peu, j'imaginais que des éclairs éclateraient tout autour de lui, il élèverait les bras, ça c'est bien Naaman qui me dit, il élèverait les bras, invoquerait son Dieu. Et vous voyez tout un déploiement de puissance, et les cieux se déchireraient, enfin on imagine des tas de choses. C'est Naaman qui imaginait ces tas de choses, un Dieu puissant pour guérir une maladie qui est puissante elle aussi. Et il envoie que son serviteur, un miséreux, là, pour lui dire, bah, écoute, pour lui parler d'abord, lui donner une réponse, et lui dire bah, qu'Élisée ne se déplacera pas, et que la seule parole qu'il lui donne, c'est d'aller se baigner cette fois dans le Jourdain. Et à ce moment-là, bah, ses serviteurs lui disent, bah, écoute, tu es capable de traverser le monde et d'apporter beaucoup d'argent pour ta guérison, eh bien vas-y, baigne-toi cette fois. Ce qu'il fait, sa colère s'éteint et il se baigne, il est guéri. Et on a ce passage qu'on a entendu tout à l'heure. Il demande à Élisée, eh bien, d'accepter l'or. Élisée n'en veut pas. Et en tout cas, bah, il lui dit, bah, laisse-moi emporter de la terre d'Israël. On voit qu'entre, en fait, c'est tout un itinéraire là, qui est symbolisé là. Le récit est rapide, bien évidemment, mais ça veut dire que les attentes à la fois magiques et vaniteuses de Naaman ne sont pas récompensées. Pourtant, son cœur est suffisamment droit pour calmer sa colère et pour devenir humble, humblement se baigner sept fois dans le Jourdain. C'est un baptême, en quelque sorte, un véritable baptême, bon, c'est pas celui du Christ. Mais c'est celui qu'Élisée lui donne pour être purifié. Cette fois, ça rappelle bien évidemment l'Esprit Saint. Donc le symbole, c'est ça, un baptême dans l'Esprit et le Jourdain, lui, dans lequel, les eaux dans lesquelles il se plonge, ce n'est pas celle du Parpar à Damas. C'est le Jourdain qui coule en Israël. Et ce Jourdain, il est un symbole, le symbole de la tradition religieuse d'Israël, le symbole de la révélation biblique. Donc, quand il s'immerge cette fois, ça veut dire qu'il se met à méditer l'Écriture. Ben, vous allez me dire, waouh, on fait un saut là dans le symbole entre l'attitude concrète de Naaman et la signification de ce qu'il fait. Eh bien, ben oui, mais c'est comme ça. C'est pourquoi il voudra reprendre de la terre d'Israël aussi. C'est parce que tout ça répond à une révélation. Ce qu'il reçoit, c'est la tradition, la révélation de la Bible, la révélation du vrai Dieu. Et il est purifié. Sa lèpre, c'était celle du mensonge, de l'erreur. Mais comme son cœur était droit, bien qu'étranger, eh bien Dieu, consent à le guérir. Il le guérit de son erreur. C'est ça qui rend infirme, c'est ça qui, spirituellement parlant, eh bien les âmes en ce monde. Élisée donc refuse l'argent, ce qui nous montre que le salut, c'est quelque chose de gratuit. Il recommandera à ses disciples, Jésus, de faire de même. Plus tard, tout est gratuit et la guérison aussi. Donc, le paiement, ça se fait pas avec de l'or, mais avec de l'amour. Dieu paye avec de l'amour et il veut être payé en retour avec de l'amour. C'est la leçon, eh bien que Naaman, cet étranger, comme dirait Jésus, ce païen, eh bien, reçoit. Le Dieu d'Israël est un Dieu d'amour, parce qu'à travers la gratuité, voyez, eh bien, il y a vraiment l'idée d'amour, le concept même de l'amour. C'est pas encore le cantique des cantiques, mais c'est palpable cet amour-là. Naaman se rend compte que le désintéressement, eh bien, qui accompagne une grâce immense, eh bien, c'est ça le véritable amour, et que Dieu est un Dieu d'amour. Alors il veut emporter un peu de terre d'Israël pour y offrir des sacrifices quand il sera de retour dans son pays. On assiste donc à une conversion radicale. Il ne veut plus prier autrement que sur cette terre d'Israël, c'est-à-dire sur la tradition religieuse d'Israël. Baigné une fois dans cette tradition, il veut continuer à s'y tenir, comme sur un roc. Voyez, c'est. Là aussi, la terre, comme le Jourdain, renvoie à la Bible, renvoie à la révélation. c'est beaucoup de religions nous parlent de Dieu, mais toutes ne le connaissent pas de la même manière, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, souvent, on entend, notamment pour, avec l'islam, eh bien que c'est le même Dieu, comme si c'était une évidence. C'est Dieu, mais est-il connu dans les deux religions, chrétienne et musulmane, de la même façon, ce Dieu-là? C'est ça qui compte. C'est pas l'idée que Dieu est toujours Dieu, c'est la façon dont on entre en relation avec lui. Et précisément, la lèpre, c'est l'impossibilité d'entrer en relation avec les autres hommes. On est mis en quarantaine, comme si on avait le Covid. Et une maladie encore plus infamante que la lèpre. Donc, cette lèpre, qui est la lèpre de l'erreur et du péché, empêche d'entrer en relation avec celui qui compte le plus, avec Dieu lui-même. On ne peut pas entrer en relation avec Dieu quand on a cette lèpre, spirituellement parlant. Donc les religions ont beau nous parler de Dieu, elles ne connaissent pas Dieu de la même façon, elles n'ont pas beaucoup de grâce à nous proposer, pas autant que le christianisme. Donc il faut la lèpre, la guérison de la lèpre, c'est la capacité d'entrer en relation avec Dieu également, et surtout cela. Les hommes, c'est bien d'entrer, quand on est lépreux, on ne pouvait plus les toucher, mais on devait leur parler de loin en agitant une clochette. Et quand on était pauvre. Et donc, c'était plutôt gênant, c'est le moins qu'on puisse dire, on était mis en quarantaine, et même Naaman, avec tout son argent, il est obligé de se faire savoir qu'il arrive dans une pièce quand il débarque, sauf si ce sont ses serviteurs, là, c'est pas grave. Eh bien, les hommes, c'est déjà pénible de ne pas rentrer en relation normalement avec les autres hommes, mais avec Dieu, c'est ça qui compte le plus. Entrer en relation avec Dieu. Or, la plupart des hommes en ce monde sont comme des lépreux vis-à-vis de Dieu. Même s'ils ont la foi en l'existence de Dieu, d'un Dieu créateur, ils ne peuvent pas, leur religion ne leur permet pas d'entrer en relation avec lui. C'est quand même, c'est la seule chose. Jésus vient en ce monde, s'incarne, et il meurt sur une croix, nous le savons, pour nous dire combien il nous aime et combien, et pour rétablir la relation, justement. Et c'est ça la guérison de la lèpre, fondamentalement. On peut rentrer à nouveau en relation avec Dieu. Ce Samaritain, bon, il avait quand même c'était pas un païen au sens strict du terme, c'était un étranger. Ils avaient, les Samaritains, le Pentateuque. Donc le Pentateuque, c'est pas le paganisme. Donc il avait les moyens, lui, d'aller demander sa guérison en toute connaissance de foi. Et quand il revient, il rend gloire à Dieu. Il est rétabli dans cette relation avec Dieu. C'est Jésus qui lui donne cette possibilité. Donc pour nous aujourd'hui, et je veux en venir là, il faut construire notre foi sur le roc de la révélation. Cette terre, ces sacs de terre là que Naaman met dans sa chambre et sur lesquels il va s'asseoir pour prier, eh bien c'est le roc de la foi fondé sur la révélation divine. La vérité, elle appartient à Dieu seul. On vit dans un monde où chacun s'arroge le droit d'énoncer la vérité et pose le soupçon dès qu'on dit qu'on a reçu cette vérité d'en haut, de quelqu'un d'autre, de plus grand que nous, d'une tradition, d'une révélation, la révélation chrétienne. On nous dit, mais vous ne l'avez pas vérifié, vous n'avez pas eu de preuve, etc. C'est pas ça la vérité. Ben si, la vérité, la foi qui donne des ailes, la foi qui sauve, c'est celle qui repose sur une révélation que nous n'avons pas inventée, que nous avons reçue. L'homme ne peut pas par lui-même accéder à Dieu, donc il ne peut pas inventer la révélation qui mène au salut. Dieu seul peut énoncer la vérité, car Dieu est la vérité. Ce n'est pas le monde matériel qui est la vérité. Le monde matériel, c'est un milieu dans lequel on est, mais la vérité, c'est-à-dire pour moi, qu'est-ce qui explique mon existence D'où je viens et où je vais, c'est ça, la vérité pour moi, la vraie vérité pour chacun d'entre nous. Eh bien, cette vérité-là, Dieu seul peut y répondre. Dieu seul peut l'apporter. Et moi, je ne peux. J'aurais beau me creuser la tête de toutes les manières, scruter le cosmos, l'infiniment grand, l'infiniment petit, vider les bibliothèques, etc. Ça ne servira à rien si Dieu ne vient me l'apprendre. Il nous l'apprend par cette Bible que l'Église nous transmet au monde de génération en génération. C'est une chose merveilleuse. La foi humaine, eh bien, quand elle veut être à l'origine de la vérité, elle est comparable à ces antéchrists dont parlait saint Jean dans sa première épître. Il disait, vous voyez, parmi nous, il y a eu des antéchrists, ceux qui s'opposent au Christ, qui disent que le Christ n'est pas le vrai Dieu, qu'il y a d'autres voies, d'autres chemins. Ne les croyez pas. Ne les croyez pas, disait-il. Et ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas de nous. Ils n'étaient pas des nôtres. Même s'ils ont été chrétiens, à partir du moment où ils énoncent des vérités qui vont à l'encontre de la révélation, c'est qu'ils n'étaient pas des nôtres. C'est ce que saint Jean dit à ceux qu'il appelle ses petits-enfants. Alors qu'il est vieux, il est quasi centenaire, et bien là, il les appelle comme ça, avec cette grande tendresse. Ce n'est pas sa tendresse à lui spécifiquement, c'est la tendresse de Dieu pour eux. Et lui est un véhicule qui laisse passer cette vérité profonde. Dieu est amour. Alors Naaman nous apprend, bien que la guérison s'obtient par l'humilité, non pas par l'orgueil et la vanité et la colère qui l'accompagnent, que la richesse ne sert à rien, mais que c'est la gratuité, comprendre que notre vie est gratuite et que nous n'avons rien à produire. Et Naaman est bien heureux, puisqu'il est sauvé, et que Dieu peut sauver tout homme de bonne volonté. Du moment que son cœur est droit, eh bien, il peut recevoir ce salut que nous espérons tous.